On a laissé nos profs seuls face à des élèves et des parents chauffés à blanc par des idéologues sur les réseaux sociaux. Se rassembler ne suffira pas, nous dit-elle. Toujours dans les échos, cette autre bombe à retardement, celle du compte personnel de formation. Les salariés risquent de perdre des milliards d'euros de droits car il ne reste que 2 mois et demi pour mettre sur son CPF les euros non utilisés du DIF, ce dispositif individuel de formation précédent. Ce serait une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont dans cette période troublée et qui ne pourraient faire valoir leurs droits. On en parlera d'ailleurs avec Étienne Lefebvre tout à l'heure à 7h10. En même temps, bien certains secteurs retrouvent des couleurs, note le Parisien aujourd'hui en France, selon le baromètre compétences et territoires du groupe ADP. Les publications d'emplois se multiplient depuis le début de la rentrée. Les offres repartent à la hausse dans toute la France. En tête, les commerciaux, les assistants et secrétaires, les vendeurs. Explosion des offres dans le domaine de la santé. Infirmiers et aides-soignants sont très recherchés. Autre secteur dynamique, le BTP et l'industrie. Les impacts négatifs du Covid, la sécurité sociale à l'épreuve de la crise sanitaire à la une du Figaro Écho, le projet de loi de financement de la Sécu plombé par les effets du Covid, examiné cette semaine, il prévoit un déficit annuel supérieur à 20 milliards jusqu'en 2024, avec même cette année 44 milliards, soit 2% du PIB. Le virus a déjà coûté 10 milliards au système de santé. Malgré tout, il y a du bon dans ce Covid, explique Éric Le Boucher dans l'Opinion. L'occasion, explique-t-il, de corriger certaines tares de l'économie française. Le dialogue social, meilleur, sans automne chaud. Le retour aussi vers des emplois productifs, industrie, technologie, santé. Et puis la compétitivité avec un plan de relance bien construit en direction des énergies propres et des robots. Elle a une également Brexit sans accord, la grande peur des entreprises, explique les échos, logistique, réglementation, les patrons français et britanniques s'inquiètent. 70 fédérations de l'autre côté de la Manche, représentant plus de 7 millions d'employés, enjoignent Boris Johnson à reprendre les négociations. On y reviendra d'ailleurs dans un instant avec Éric Mauban. Et sur la crainte des entreprises françaises, la réponse de la ministre Agnès Pannier-Runacher à 7h15 sur Radio Classique. Enfin, dans le Figaro Économie, vous découvrirez comment la Chine détrône Hollywood. Les recettes du box-office chinois devraient dépasser celles des États-Unis. Une bascule historique avec des super productions comme The 800 qu'on ne connaît pas ici forcément. C'est le dernier exemple, un film de guerre qui fait davantage de recettes que Bad Boys de Will Smith.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h41. Sur le front du Brexit, c'est un peu... Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Bataille entre Londres et Bruxelles pour tenter de fixer les règles du jeu après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne en janvier dernier. Et 4 jours après un sommet des 27 qui n'a pas calmé les échanges, les deux camps se retrouvent aujourd'hui pour discuter du format de leurs négociations. Accord ou pas, Éric Mauban?
Eh bien, Londres et Bruxelles ne sont d'accord sur rien, en fait. Hein, les discussions bloquent sur 3 sujets. L'accès pour les Européens aux eaux poissonneuses britanniques, les garanties réclamées à Londres en matière de concurrence et la manière de régler les différends dans le futur accord. Pour finaliser à la fin de l'année la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, il faut un accord fin octobre ou début novembre. Pour le moment, chacun campe sur ses positions, une situation qui commence à inquiéter sérieusement le patronat britannique. Le Financial Times relaie les inquiétudes de près de 70 groupes. Plus des 3/4 des entreprises du pays déclarent avoir besoin rapidement d'un accord. Elles alertent les autorités sur les graves conséquences d'un Brexit dur. Cela affecterait durablement l'emploi et les investissements. De nombreuses PME, déjà confrontées au ralentissement économique lié à la crise sanitaire, seraient alors obligées de mettre la clé sous la porte.
Merci Éric Mauban. Et d'ailleurs, nous serons à Londres dans un instant avec le président du Cercle Outre-Manche, Arnaud Vessier, par ailleurs président de International SOS, qui évoquera les difficultés de voyager en avion. La reprise se confirme en Chine, rebond au troisième trimestre de 4,9% sur un an après un effondrement historique du PIB en début d'année pour cause du coronavirus, annonce ce matin du Bureau des statistiques. Les ventes de détail sont en forte hausse sur un an. Malgré tout, ce rythme de croissance reste éloigné du niveau atteint l'an dernier, plus 6,1% qui était déjà un plancher de 3 décennies. Le Covid qui entraîne un triplement du déficit budgétaire américain au-dessus des 3 000 milliards de dollars, 16% du PIB, un record depuis la Seconde Guerre mondiale, dû aux allocations chômage et le soutien aux entreprises et les aides fiscales aux ménages. Sur le front du virus, début d'un déconfinement progressif en Israël, la Suisse prend de nouvelles mesures, dont le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Dès aujourd'hui, l'Italie, troisième économie de la zone euro, mobilise 39 milliards d'euros supplémentaires, notamment pour soutenir l'emploi des personnels de santé, des enseignants et l'achat de vaccins. Le Covid qui frappe les plus pauvres. Jean Castex, le Premier ministre, annonce hier que l'aide de 150 euros à destination des personnes les plus précaires sera finalement étendue aux jeunes sans enfants bénéficiant des aides au logement, ainsi ainsi qu'aux étudiants boursiers. Et à l'heure du couvre-feu, les entreprises de l'événementiel, professionnelles, culturelles, sportives, veulent pouvoir tester les spectateurs. Demande faite par le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, alors que le gouvernement s'apprête à libérer le retour aux tests antigéniques avec un résultat en 30 minutes, dans un premier temps à titre expérimental dans les aéroports. On en parlera tout à l'heure sur Radio Classique avec la ministre Agnès Pannier-Runacher. Il est 6h44. Le retour aujourd'hui d'un dossier chaud socialement et politiquement, c'est Bridgestone. L'usine de pneumatiques de Béthune dans le Pas-de-Calais avec presque 900 salariés doit fermer à l'horizon 2021. Réunion à Bercy à 10h. Syndicats et élus locaux vont être reçus par la ministre de l'Industrie. Émilie Vallès, depuis un mois, où est-ce qu'on en est ?
On est au tout début du processus, explique Bercy. On a 5 mois devant nous pour trouver la meilleure solution. L'État est prêt à investir dans l'usine aux côtés de Bridgestone, a répété la semaine dernière Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'industrie. Car le problème, c'est que ce site de Béthune est vétuste. Le groupe n'a pas investi depuis des années. Il faudrait aussi changer le type de production, produire des pneus plus grands, plus complexes, plus chers. C'est l'une des options, mais il faut aussi envisager d'autres solutions, et notamment sans Bridgestone. Un cabinet indépendant, Accenture, étudie toutes les pistes et doit présenter ses premières conclusions ce matin. Une reconversion du site est mise sur la table, pourquoi pas le recyclage de pneus, mais est-ce viable, ou encore la logistique? Et si tous les salariés n'étaient pas repris, certains pourraient être reclassés, notamment à quelques kilomètres dans l'usine de batteries électriques de Douvrin que PSA va ouvrir.
Émilie Vallès, Auchan annonce ce matin la vente de sa filiale chinoise Sun Art au géant du e-commerce chinois Alibaba pour quelque 3 milliards d'euros. Le groupe de retail acte ainsi la fin de ses activités dans le pays. Ça bouge chez Danone. Le géant de l'agroalimentaire annoncera tout à l'heure, d'une part ses trimestriels, d'autre part avec une journée d'avance, une nouvelle organisation qui actera le départ de Cécile Cabanis, la directrice générale. Vendredi, lorsque la nouvelle a fuité, le titre avait perdu plus de 3%. Déjà, il y a quelques semaines, un autre membre du COMEX était parti. Alors, Céline Cajolis, vous avez mené votre enquête. On peut se demander si ce n'est pas trop difficile de travailler avec Emmanuel Faber.
Ce qui est sûr, c'est que le charismatique PDG de Danone n'est pas facile à vivre. Très exigeant avec lui-même, il est également avec ses équipes, obsédé par la transformation du groupe. Il a de défauts de certains dirigeants trop visionnaires. Il peine à comprendre que tout le monde n'aille pas aussi vite que lui. C'est ce qui le rend autoritaire. Un comportement archaïque dans une entreprise qui se veut pionnière dans le développement des rapports sociaux. Emmanuel Faber n'aime pas non plus partager le pouvoir. La nouvelle organisation qui sera annoncée tout à l'heure aurait d'ailleurs pu être l'occasion de dissocier la fonction de président de celle de directeur général. Une occasion manquée qui donne un signal clair. Et si officiellement ce n'est pas ce qui a poussé Cécile Cabanis à prendre le large, ça a sans doute pesé dans sa décision. Son départ inquiète d'ailleurs aussi bien les salariés que les actionnaires, car même si elle n'est que directrice générale déléguée, elle est l'un des piliers de Danone. Il va donc falloir lui trouver un ou une remplaçante avant février prochain, en espérant que le recrutement se fera plus rapidement que chez Engie, où il a fallu 10 mois pour trouver une nouvelle directrice générale.
Merci Céline. Engie, justement, sur France 3 hier, Bruno Le Maire regrettait la précipitation dans le dossier de fusion Veolia-Suez, voulu par Veolia contre la volonté de Suez, en affirmant la nécessité de garder deux champions industriels. Pourtant, l'exécutif avait, dans un premier temps, soutenu le projet avant de s'y opposer et voter contre lors du conseil d'Engie. Va-t-on voir revoler d'ici la fin de l'année des Boeing 737 MAX cloués au sol depuis 2 ans après une série d'accidents? En tout cas, American Airlines l'envisage, si évidemment les autorités fédérales l'autorisent. Il faudra surveiller également les suites de l'élection présidentielle en Guinée. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est assis sur les principales réserves de bauxite de la planète. Scrutin remporté hier par le président Alpha Condé, 82 ans, qui a fait amender la Constitution pour briguer un troisième mandat, ce qui a donné lieu ces dernières semaines à des affrontements meurtriers. Un vote en Guinée qui ouvre un cycle de présidentiel dans cette région, Burkina Faso, Ghana, Niger et puis surtout Côte d'Ivoire, dans 2 semaines. La bourse de Tokyo dans le vert ce matin, portée par un regain d'espoir sur un accord sur des mesures de relance ciblées pour l'économie américaine. Wall Street avait terminé en or dispersé vendredi, le Dow Jones plus 0,4%, le Nasdaq en recul dans les mêmes proportions. Et puis à Paris, très belle progression de plus de 2% pour le CAC à 4935, poussée par LVMH qui gagne plus de 7%. Le géant mondial du luxe qui dépasse les attentes pour ses trimestriels, porté par un bond de sa division mode et maroquinerie et le dynamisme de l'Asie. Oui, je vous parlais.